Le monde est en crise. La faim, les changements climatiques, l'épuisement et la destruction de nos forêts, des ressources en eau et des écosystèmes, les inégalités économiques et les injustices énergétiques menacent la survie de la majorité de l'humanité et de la planète. Les femmes des milieux populaires et les paysannes partout dans le monde portent la grande part du fardeau de ces crises. Ce sont ces femmes que l'on retrouve aux premières lignes de la résistance aux accaparements des ressources, à l'exploitation et à la violence associée avec le patriarcat capitaliste. C'est avec cette citation que débute la déclaration « Vivre le futur aujourd'hui », lancée en Afrique du Sud en 2018. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, il s'agira d'expliquer quels sont les liens entre l'écologie et les questions de genre. En janvier dernier, Écologique s'associa à S'exprimons-nous, l'association féministe à vocation intersectionnelle de Sciences Po Bordeaux, afin d'organiser une conférence sur le thème de l'écoféminisme. Nous avons eu le plaisir de recevoir Marie Bécu, Jaira Lerita et Jeanne Burgard-Goutal pour nous éclairer sur le sujet. Chacune sous un angle différent. Marie sous celui des crises, Jay du point de vue de Madagascar et Jeanne en mettant l'accent sur les différentes façons de mettre en pratique l'écoféminisme. Je m'appelle Alba et aujourd'hui, au micro d'OGM, je vous propose de réécouter quelques extraits de cette conférence.
La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante.
C'est un peu aux enfants d'éduquer les parents.
Une croissance exponentielle dans un infini ne peut pas durer éternellement.
Notre première intervenante, Marie Bécu, est consultante et conférencière. Elle est spécialiste des écoféminismes et de la question du genre face aux effondrements.
Moi, je préfère parler des écoféminismes. Je trouve qu'il y a plusieurs courants dans ce courant et je vais y revenir un petit peu après. J'aime bien aussi mélanger les écoféminismes avec la notion de crise, qui est un peu mon travail. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends cet angle-là. Déjà, merci donc à l'organisation S'exprimons-nous et à Écologique de nous inviter aujourd'hui. C'est important de vulgariser ces thématiques parce que les écoféminismes, malgré elles, je pense, ont un peu mauvaise presse en France. Alors, on va essayer de rectifier ça aujourd'hui. Et puis surtout d'essayer de vulgariser les concepts, peut-être de revenir sur des malentendus de compréhension justement liés à ces concepts. Et puis avoir des exemples pratiques, ça va aider aussi aujourd'hui, je pense, à tout ça. Pour moi, deux grosses parties, donc revenir sur la notion de genre et de crise pour comprendre comment vont s'articuler les mouvements écoféministes derrière et puis revenir après du coup sur l'explication de ce qu'est l'écoféminisme avec les mécanismes de domination, parler des luttes pratiques, concrètes, de sororité et d'activisme. Une petite phrase du secrétaire général de l'ONU au début de la pandémie qui nous expliquait que les gains pourtant limités, réalisés au cours de ces dernières décennies, donc on ne parle pas d'années, on parle de décennies, en matière d'égalité femmes-hommes, risquaient d'être tout simplement complètement annulés avec la pandémie. Et c'est le même constat qu'on a aussi avec la crise climatique. C'est l'ONG CARE qui a fait ce constat-là, chiffré, que si on continue à aller vers une augmentation de la crise climatique, toutes les égalités, enfin, on va dire toutes les gains en matière d'égalité femmes-hommes qui ont pu être accomplis au niveau mondial ces dernières décennies vont complètement être annihilées, puisque les crises révèlent les chocs, révèlent les inégalités, et de fait vont renforcer ces inégalités, et ça va s'accroître, et on ne pourra rien faire. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, qu'il faut qu'on agisse sur les causes des inégalités, parce que si effondrement climatique ou sociétal il y a, de moins loin on part, de moins loin il faudra se relever. Et ça, c'est vraiment important à comprendre en matière de choc climatique et d'impact genré. Vite fait sur la crise climatique, puisqu'il y a un énorme lien justement entre écoféminisme et climat, on parle donc de grande accélération. Et donc de cet impact-là, il va y avoir des conséquences. Donc, effet de la double injustice. On parle de double injustice, notamment en matière de conséquences. Ce sont les peuples et les pays du Sud qui prennent, et les pays les plus vulnérables, qui prennent les conséquences du changement climatique, alors que ce ne sont pas eux qui sont responsables de ce changement climatique. Donc, première injustice, vraiment. Et en plus, c'est ces pays-là qui ont le moins de ressources pour faire face à ces injustices. Donc, double injustice. Et en plus de ça, on rajoute la notion d'inégalité femme-homme, qui est encore un facteur, hein, une augmentation du facteur de risque et de vulnérabilité là-dessus. Donc, c'est vraiment triple peine. Pour revenir sur le fardeau de ces crises, en effet, sur les crises climatiques, on voit par exemple au Sahel, la dernière étude de genre que j'ai faite sur le Niger, par exemple, eh bien, les femmes sont celles qui sont en charge d'amener la nourriture et l'eau dans les foyers. Or, elles doivent faire de plus en plus de kilomètres à pied pour trouver de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau liée aux sécheresses. Idem pour la nourriture. Et donc, ce sont elles qui sont responsables d'amener ça dans les foyers et donc qui portent ce fardeau de la crise climatique. Donc, c'est important. Ou alors, par exemple, un autre exemple que j'ai sur l'avant-dernier typhon inondation au Bangladesh, 90% des morts étaient des mortes. Ce qui est énorme en termes d'impact genré par rapport aux crises climatiques. Et c'est ces luttes et c'est ces décennies, voire ces siècles maintenant, de luttes féministes que portent en fait ces activistes écoféministes. Pour moi, dans mon travail au quotidien, ce que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment d'établir des liens entre ces phénomènes, de comprendre les interconnexions, de comprendre ce que c'est que les risques systémiques de ces ensembles et de travailler sur l'intersectionnalité qui est la clé pour moi, pour avoir une approche qui permettra une résilience commune, communautaire, locale, régionale qui va nous sortir de la panade. Bien sûr, pour moi, la crise nous montre de manière plus qu'évidente les limites du système capitaliste, productiviste, individualiste, basé sur l'exploitation infinie des ressources. Et de là, je fais tout naturellement le lien avec les écoféminismes. Alors, les écoféminismes et les mécanismes de domination. C'est la clé pour comprendre le concept ou les théories des écoféminismes. On parle de destruction de la nature et de la domination des femmes en tant que mécanisme de domination. C'est lié, c'est tout à fait lié, je vais y revenir après. Et on fait le lien avec le capitalisme, qui est écocide, le patriarcat et le colonialisme. On oublie souvent le colonialisme, pourtant c'est important d'envisager la notion de colonialisme comme point de départ parfois sur certains mouvements écoféministes. Les femmes souvent sont expropriées de leurs terres, comme elles l'ont été de leur corps, avec les violences basées sur le genre. Leurs territoires physiques sont violentés, donc leurs propres corps sont surexploités, instrumentalisés, niés. Et les violences faites aux femmes font souvent écho aux agressions contre la planète tout entière. Et c'est en fait cette compréhension-là qui souvent a pu porter mauvaise presse aux écoféminismes qui ont associé naturellement la femme à la nature et qui ont un peu donné l'étiquette essentialiste au courant écoféminisme. Alors que ce n'est pas du tout ce que veut dire cette phrase. Je vais y revenir après. Mais c'est bien les hommes qui ont classé les femmes du côté de la nature de par leur côté, on va dire, sensible. Et donc, ils ont féminisé la nature pour justifier leurs agressions auprès de la nature, comme ils ont pu justifier leurs agressions auprès des femmes. Mais ce n'est pas que les écoféministes se revendiquent du côté de la nature. L'objectif est de dégenrer, justement, ce côté nature et que tout le monde puisse prendre en main la protection de cette nature. Mais d'un autre côté, on sait que les violences basées sur le genre et les violences sur les écosystèmes font appel à ces mêmes mécanismes de domination. Et c'est en cela où les écoféminismes innovent et je trouve sont hyper important et intéressant d'étudier parce que nous propose une autre lecture du changement du système que simplement s'attaquer aux problématiques écologiques ou avoir une vision féministe sans une vision écologiste. On changera pas le système, on s'attaquera à une petite partie du système mais pas au système. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de revenir là-dessus. C'est une logique qui est prédatrice, qui est mercantile, c'est la compétition, c'est la loi du plus fort, notamment sur le corps des femmes également. Si je refais un peu de définition des écoféminismes, je l'aborderai de deux points de vue pour moi, d'un point de vue historique. Si on reprend le point de vue historique, les mouvements écoféministes sont nés dans les années fin 70, années 80, on est en contexte de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Donc, ce sont des mouvements anti-nucléaires, anti-guerre, qui, des mouvements féministes aussi, écologistes, et qui, au fur et à mesure, en fait, s'est transformé en mouvement féminin. Les occupations, les camps, les premières ZAD, en fait, se sont retrouvées en zone de non-mixité choisie pour essayer de réinventer des formes de dialogue politique, et dont le fait le plus connu, c'est le Women Pentagon Act, où les femmes se sont enchaînées voilà, aux grilles du Pentagone avec des slogans politiques forts, avec des prises de position politiques, des discours politiques. Il y a eu également aussi ce qu'on appelle la poésie politique, donc je vous laisserai lire pour ça Reclaim, le livre qui compile d'Emily H, pardon, qui est très très bien fait aussi sur tous les poèmes politiques des écoféminismes. Donc voilà, c'est vraiment le premier point de départ des mouvements écoféministes, c'est vraiment anglo-saxon. Alors ça a pris aussi en France, hein, il y a eu les mouvements de contestation dans le Larzac, les zones d'occupation dans le Larzac, il y a eu les mouvements anti-nucléaires aussi à Bure, hein, qui ont été énormément portés par des mouvements écoféministes, on l'oublie souvent, mais pourtant bien bien présentes. Et ça s'est un peu essoufflé dans les années 90, justement, avec les courants féministes matérialistes qui se sont un peu opposés au courant écoféministe en étiquetant un peu l'essentialisme sur le mouvement. Je pense que c'est plus des mauvaises compréhensions, des mauvais dialogues, du fait de la volonté aussi de lutter contre ce patriarcat. On ne s'est pas rencontrés, c'est tout, je pense. Ça ne va pas plus loin que ça, on ne s'est pas rencontrés. Nos mouvements n'ont pas eu la chance de se rencontrer. Et là, ça commence à reprendre. En revanche, dans les pays du Sud, dans les pays plus vulnérables, ces mouvements-là ont continué à prendre de l'ampleur et ce n'est pas parce qu'on a une vision un peu occidentalo-centrée que l'écoféminisme et les écoféminismes ont totalement disparu de la surface de la planète. On a une Vandana Shiva en Inde, enfin, on a énormément de mouvements féministes qui ont pris de l'ampleur et qui continuent à être terre de lutte. J'y reviendrai juste après aussi. Le deuxième point pour moi en matière d'écoféminisme, on est sur de la philosophie des idées aussi, sur qu'est-ce que c'est que les écoféminismes. Et pour moi, là, on est sur des ensembles de mouvements donc, qui sont activistes, environnementaux, composés de femmes qui font donc le lien, hein, bien sûr, entre la destruction massive de la nature du fait du capitalisme, de la même manière qu'on détruit le positionnement de la femme et la femme pour inférioriser cette nature, de la même manière, qu'on infériorise les femmes, tout simplement, et qu'on justifie sa violation, sa supériorité. Donc ça, c'est important. Et ce qui a aussi fait corps dans ce mouvement d'idées, c'est que on a souvent rangé la nature, les hommes ont rangé la nature à côté de la féminité, à côté de la douceur. Et par opposition, les hommes se sont positionnés en culture, en esprit. Et ça, c'est le masculin. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette domination patriarcale et c'est de la même manière que ce mécanisme de domination va s'appliquer sur la logique colonialiste, sur la logique raciste, sur la logique de patriarcale. Et ça, c'est le point de vue écoféminisme, du point de vue des idées, au-delà du point de vue historique, bien sûr. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment derrière les écoféminismes, ce concept de mécanisme de domination est pas du tout resté figé sur cette notion, d'essentialisme qui a été collé en étiquette. Il y a différents courants. Il y a des écoféministes qui vont revendiquer, entre guillemets, ce lien proche de la nature en termes de justification, de compréhension de mécanismes de domination. Il y a des courants qui vont être beaucoup plus matérialistes, de la même manière qu'il y a des courants féministes matérialistes. Mais l'objectif est vraiment de reformer ensemble un nouveau modèle sociétal qui va arrêter de vouloir vraiment accaparer, violenter, mépriser et minimiser la nature comme il minimise les femmes et de la même manière que le mécanisme de domination va s'appliquer sur le racisme ou sur l'approche colonialiste. c'est important de co-construire ce nouveau modèle avec tout le monde, avec les sans-papiers, avec les migrantes, avec les communautés LGBTQIA+, qui sont aussi mais une grosse communauté activiste écoféministe, et d'avoir une critique radicale de notre structure qui est complètement oppressive pour nous en libérer. Voilà, je pense que c'est ma conclusion. Je vous invite, si vous avez le temps, à aller lire une petite tribune que j'ai coécrite avec une amie Selma qui s'appelle « Avec les écoféminismes, se projeter autrement dans l'après-Covid ». On a eu énormément de chance parce qu'on a été co-signés par une quarantaine de féministes, écoféministes, écologistes, femmes et hommes. Il était important pour nous aussi d'avoir l'adhésion de beaucoup de monde. On a eu Catherine Larère, on a eu Clotilde Bateau, on a eu Pascal Derme, justement, Valérie Cabanne, on a eu Jeanne qui sera là aussi juste après en co-signataire, Agnès Sinaï, mais on a eu aussi Pablo Servigne, Gauthier Chapelle qui font un énorme travail aussi sur les thématiques d'effondrement climatique que je vous invite aussi à aller lire.
Notre deuxième invitée, Jay Halitera, travaille sur les questions d'environnement et de changement climatique, notamment sur la mobilisation des jeunes à Madagascar et sur les écoféminismes. Elle est ainsi cofondatrice du réseau Climat-Océan Indien et de la branche Climates Madagascar. Elle est également membre du groupe de réflexion écoféminisme Madagascar et se définit comme une exploratrice de possibles.
Moi, je me suis posé énormément de questions avec mes amis, avec aussi d'autres personnes qui font partie de mouvements militants à Madagascar, qui font partie d'associations. Et on s'est posé beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif pour notre planète et aussi pour Madagascar, pour qu'on arrête d'identifier Madagascar à la pauvreté, aux inégalités, aux droits des femmes bafoués. Comment est-ce qu'on fait pour changer un peu la narrative qu'on a sur notre pays? Parce qu'effectivement, il y a ça. Il y a aussi plein de femmes qui se battent, plein d'hommes qui se battent pour l'environnement. Il y a aussi énormément d'énergie qui sont déployées. Et des réflexions qui sont mises en place sur différentes thématiques, dont l'écoféminisme. Après, pour parler un peu de l'écoféminisme à Madagascar, ce qui est un petit peu différent, je pense, par rapport au militantisme qu'il peut y avoir aux États-Unis ou en Europe, c'est qu'on n'a pas forcément de combat sur le nucléaire, ou alors c'est un peu difficile, je pense, de se positionner, par exemple, en allant à des manifestations, ou bien en s'enchaînant à des arbres ou des choses comme ça, puisque ce n'est pas du tout les mêmes formes de militantisme. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à discuter, puisque se définir comme militant, quand on n'a pas les mêmes définitions de ce que c'est que le militantisme, ça peut créer parfois des dissonances. Donc ça, c'est assez intéressant à voir un peu. Et donc en fait, à Madagascar, ce que je considérais du militantisme, et ce qu'on considérait du militantisme, je pense, pour beaucoup, c'est le fait de faire partie d'une association et de mettre des actions en place, que ce soit des actions locales. Par exemple, il y a des gens qui vont aller nettoyer des plages, il y a des gens qui vont aller replanter des arbres. Et après, il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir la possibilité de faire du plaidoyer. Donc ça, c'est un petit peu les différentes formes de militantisme qu'on a à Madagascar. Et en fait, dans ce militantisme environnemental dont je fais partie, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes, de jeunes femmes, notamment, enfin surtout des jeunes femmes, qui étaient à la tête de ces mouvements. Et à partir de là, on a commencé à se poser des questions sur ce que c'était que l'écoféminisme. On a commencé à créer un collectif qui s'appelle l'écoféminisme Madagascar, qui a été créé en 2018, où on a réuni plusieurs leaders environnementales malgaches qui se trouvaient là, et on a commencé à avoir des discussions. Donc je pense que la première des difficultés, ça a été de définir ce que c'est que le féminisme pour nous, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a autant de féminisme que de féministes, et on doit parler des écoféminismes plus que d'un écoféminisme, mais c'était important pour nous de redéfinir cette notion, puisque comme l'avait souligné tout à l'heure Marie, c'est important de pouvoir aussi décoloniser certains termes et de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer localement avec des contextes locaux, avec des situations qui sont propres à Madagascar. Par exemple, nous, on va avoir des problématiques sur des femmes paysannes qui vivent dans des contrées où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Elles doivent faire des kilomètres pour aller marcher, pour trouver un hôpital. C'est des contextes qui sont vraiment très, très différents de ce qu'on peut trouver dans les pays du Nord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être féministe dans ces cas-là? Parce que ça ne regroupe pas les mêmes dimensions et ça ne fait pas appel du tout au même imaginaire collectif non plus. Donc, Donc voilà, ça c'était une des premières questions, sachant qu'il y a ces femmes-là qui existent, mais il y a également les femmes qui travaillent dans les villes, qui sont ultra connectées, qui sont sur Instagram tout le temps, qui ont des métiers de cadre dans des bureaux, et c'est deux réalités complètement différentes qui cohabitent sur un même territoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les faire en sorte qu'elles puissent aller ensemble vers une même vision qui serait celle d'un monde désirable, plus écologique, où on ne couperait pas les forêts et où on pourrait construire une société plus égalitaire pour tout le monde et pour la nature aussi. Ça, c'est vraiment des questions qu'on a commencé à se poser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se réunir beaucoup et à parler, essayer de définir ce que c'est que l'écoféminisme pour Madagascar. Spoiler alerte, il n'y a pas de définition unique. Je pense que chacune est partie après avec ses idées, avec sa façon de voir les choses et a essayé de les appliquer dans ses associations. Et donc, ce qu'on fait globalement, c'est de promouvoir la parole des femmes au maximum. Et on voit aussi que maintenant, au niveau national, les personnes qui portent les discours pour la protection de l'environnement sont des jeunes femmes malgaches de différentes ethnies. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super qu'on a pu réussir à faire. Et après, moi aussi, je me pose des questions très particulières sur comment vivre mon écoféminisme au quotidien. Je ne sais pas si ça vaudrait le coup d'en parler ce soir, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de concepts et comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien. Je peux vous expliquer un peu comment je le vis. Enfin, quand vous m'avez présenté, vous avez parlé de l'éco-colocation et ça, c'est une des façons dont moi, personnellement, je vis mon écoféminisme dans mon quotidien parce que je trouve ça compliqué. Enfin, j'aimerais bien être en fait le plus possible en accord avec mes valeurs et donc dans tout mon quotidien, j'essaie de mettre en place ça. Et ça peut être assez facile, par exemple, en mettant en place des éco-gestes dans ma vie quotidienne. Bon, même si à Madagascar, c'est un peu compliqué, ce n'est pas du tout les mêmes contextes que ce que vous pouvez avoir en France. Enfin, par exemple, on n'a pas de système de tri des déchets, on n'a pas de système… Il y a plein de choses qui nous manquent, mais on essaie de trouver des solutions et de mettre en place des choses. Sachant qu'en plus, les personnes qui travaillent dans le domaine du recyclage des déchets sont principalement des femmes qui vont toquer aux portes, récolter des bouteilles, récolter certains types de déchets et tout ça. Donc, c'est un petit peu lié. Et après, j'organise également des clubs de lecture, en fait, pour essayer de diffuser diffuser un peu des notions et tout ça. Donc, par exemple, on avait organisé un club de lecture sur Reclaim. On avait organisé un club de lecture sur Sorcières, le pouvoir vaincu des femmes, sur le livre de Françoise Vergès, Un féminisme décolonial. Et en fait, j'aimerais bien avoir plus de littérature qui soit écrite par des femmes du Sud. Donc ça aussi, c'est peut-être un défi pour moi cette année, essayer de faire des clubs de lecture qui soient écrits par plus de femmes qui viennent d'autres horizons, en fait, que ce qu'on est à l'habitude de voir. L'écoféminisme à Madagascar, c'est un mouvement qui est assez naissant, qui est surtout porté par des jeunes femmes qui sont déjà super actives dans le domaine de l'environnement et qui se sont rendues compte qu'en fait, ce mouvement-là a été porté principalement par des femmes. Et elles se sont dit, c'est étrange et en même temps, c'est super et on va se soutenir et on va essayer de travailler ensemble et de construire quelque chose, un modèle de société qui soit aussi basé sur la promotion des femmes sans forcément être essentialiste ou autre. Et voilà, en fait, globalement, c'est la façon dont je vois l'écoféminisme à Madagascar.
Notre troisième intervenante, Jeanne Burgard-Goutal, est normalienne et professeure agrégée de philosophie. Elle mène également depuis près de 10 ans une recherche sur les écoféminismes mêlant approche théorique, immersion, rencontre et expérience vécue. Elle a publié plusieurs textes de référence sur le sujet, notamment le livre « Être écoféministe, théories et pratiques ».
Alors moi je suis Jeanne Burgard-Goutal, je suis prof de philo et j'ai écrit un livre sur l'écoféminisme qui s'appelle « Être écoféministe, théories et pratiques ». Et qui est en fait le fruit de à peu près 8 ans de recherche. Alors au début, c'était dans le cadre d'une thèse de philo que j'avais commencée en parallèle de l'enseignement au lycée. Et puis finalement, je n'ai pas fini ma thèse, mais j'ai publié un livre à la place. Et en fait, justement, une question que je m'étais posée, ça rejoint la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire comment on fait pour être écoféministe dans la vie réelle. Et qu'est-ce que c'est concrètement l'écoféminisme ? Donc, j'ai commencé par m'intéresser beaucoup aux théories, évidemment, parce qu'en plus, voilà, je suis philosophe, donc les théories, ça m'intéresse. Donc, par essayer de voir les différents courants, les différents concepts, les débats qu'il peut y avoir, les désaccords entre des écoféminismes essentialistes et constructivistes, etc., ou spirituels et matérialistes, ou qui seraient pour une décroissance radicale, ou des formes d'écologie plus... Enfin, il n'y a pas beaucoup de modérés parmi les écoféministes, mais voilà, il y a une diversité de positions. Et en fait, au bout d'un moment, ce cheminement purement théorique, il a commencé à être non seulement frustrant, mais aussi, je me suis rendu compte que c'était à côté de la plaque pour cet objet-là. Et donc, j'ai essayé d'aller voir dans la réalité pour confronter les théories aux pratiques et voir quelles sont les incarnations réelles aujourd'hui de l'écoféminisme. Ce qui était important pour moi, c'était de ne pas... décréter, voilà, ça c'est du vrai écoféminisme, ça c'est pas du vrai écoféminisme, de pas faire le tri, mais d'essayer de constater tout ce qui se présentait, toutes les personnes, individus, associations, collectifs, qui se présentaient comme écoféministes, et voir ce qu'elles faisaient. On se confronte, en fait, quand on procède comme ça, à une diversité énorme. C'est-à-dire que souvent, j'utilise le terme de nébuleuse ou de galaxie pour parler de l'écoféminisme ou des écoféminismes, parce que entre Greta Thunberg, par exemple, où souvent on me demande mais alors, est-ce qu'elle est écoféministe ou pas, ou bien Vandana Shiva, ou une femme qui vit dans une yourte en autonomie, ou Ségolène Royal qui écrit dans son dernier bouquin que les femmes et la nature sont exploitées de la même façon, etc. On ne voit pas trop l'unité de tout ça, et pourtant tout ça c'est lié à l'écoféminisme. Donc pour essayer d'organiser ce bordel, il m'a semblé qu'on pouvait distinguer quatre strates de ce qu'est concrètement la nébuleuse écoféministe aujourd'hui. Les étiquettes que j'ai utilisées et que je vais illustrer plus concrètement après, c'est de dire, en fait, un petit peu comme un oignon, quoi, avec différentes pelures. Donc, la strate la plus externe, donc la manière la plus superficielle, on va dire, d'être écoféministe que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les écoféministes à leur insu. Et parce qu'en fait, les thèmes écoféministes, alors, ce n'était pas le cas quand j'ai commencé mes recherches, mais il y a eu une évolution ultra rapide sur ces sujets. Et maintenant, ils sont tellement dans l'air du temps qu'en fait, on peut percevoir une sensibilité écoféministe, même chez des gens qui ne connaissent pas forcément l'écoféminisme. Mais voilà, avec l'essor du mouvement féministe d'un côté, depuis MeToo, etc., et puis l'essor aussi de la conscience de l'urgence climatique, on voit qu'il y a cette ère du temps assez écoféministe. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé les écoféministes à leur insu. Donc généralement, ça va plutôt rester de l'ordre du discours ou de la théorie, sans que ça se manifeste forcément dans des actes, mais il y a de plus en plus cette sensibilité à la justice homme-femme et aux questions environnementales. Si on va vers une couche un petit peu plus profonde ou un peu plus engagée d'incarnation de l'écoféminisme, il m'a semblé qu'il y avait aussi toute une strate de ce que j'ai appelé les écoféministes en herbe. Donc c'est souvent des jeunes femmes ou des jeunes filles qui... sont assez lectrices, souvent étudiantes ou ayant fait des études et qui du coup connaissent l'écoféminisme, ont lu des trucs dessus et cherchent dans la mesure du possible à aménager un peu leur quotidien pour mettre en place des choses écoféministes. Donc ça peut passer par différentes formes, ça peut être de passer au zéro déchet par exemple, ou réduire sa consommation de viande, ou même devenir végétarienne ou végane, ou bien réduire sa consommation de fringues, ou acheter que des vêtements d'occasion, ou réduire son usage des technologies, réduire ses transports en avion, ou essayer de, dans sa vie de couple ou dans sa sexualité, essayer aussi d'aller vers des pratiques qui soient moins macho ou moins phallocentrées, dans les modes de contraception aussi, peut-être arrêter la pilule, ou pour les règles, ne pas utiliser des protections jetables, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé les écoféministes en herbe, c'est-à-dire celles qui essayent, en gardant un quotidien moderne, on va dire, souvent urbain, de introduire des rapports aux autres, des manières de consommer et de vivre qui soient un peu plus écoféministes, on va dire. Et ça, c'est aussi en plein essor, et donc, comme je le disais, notamment dans la jeune génération. Pour mon enquête, j'ai rencontré pas tant de jeunes filles que ça, plutôt des femmes qui cherchent aussi à, tout en restant pour moi dans la catégorie écoféministe en herbe, à faire des trucs un peu plus... je vais vous donner des exemples. Par exemple, en fait, dans mon livre, il y a toute une série de portraits de femmes que j'ai rencontrées toutes dans la région parisienne, en fait. À chaque fois, elles m'ont embarquée dans le bois de Vincennes pour des pratiques que je n'avais jamais faites dans le bois de Vincennes, alors que j'ai grandi dans ce coin-là, à la limite 94-93, donc je connais le bois de Vincennes comme ma poche. Mais par exemple, il y a une femme qui s'appelle Nathalie Mondeau qui organise différents trucs, des ateliers d'autogynécologie, etc., et des balades botaniques, et qui est vraiment super compétente en ethnobotanique. Et donc, elle se considère un peu comme une sorte de sorcière contemporaine. Et quotidiennement, ou presque, elle va au bois et du coup, elle repère quelles plantes il y a, lesquelles servent à ci ou ça, et elle forme aussi des femmes à cette connaissance-là. Donc, à apprendre quelles plantes on peut utiliser, mais vraiment dans notre environnement immédiat, même en étant urbaine, pour savoir soigner facilement tel ou tel mot. Et en fait, ça crée vraiment un rapport complètement différent à l'environnement immédiat. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement quelque chose d'esthétique où on se promène mais qui reste un peu étranger, il peut vraiment se développer une connaissance de cet environnement sans avoir besoin d'un changement radical si ce n'est pas ce à quoi on aspire. Mais par ce genre de pratique, il y a une transformation qui peut se jouer. Dans le bois de Vincennes aussi, j'ai pu faire des rituels dans des clairières un peu cachées, donc liés à des rituels de Wicca, de célébration, des rythmes naturels, des solstices, des équinoxes, etc. Donc là, c'est la version un peu qui est parfois considérée comme folklorique de l'écoféminisme, mais qui me semble là aussi répondre à une aspiration contemporaine à renouer avec les rythmes de la nature et avec la façon dont on peut les observer et leur apporter de l'attention. Donc voilà quelques exemples d'écoféminisme en herbe. Ensuite, si on va encore un peu plus vers le noyau, il y a une troisième strate que j'ai appelée les porte-paroles de l'écoféminisme. Donc on pourrait aussi appeler les écoféministes militantes, voire militantes professionnelles. Donc ce sont des femmes ou des ONG ou des associations qui sont vraiment engagées dans une lutte, un activisme écoféministe, donc là aussi qui se théorise comme écoféministe, avec quelques stars, donc par exemple Starhawk ou Vandana Shiva. Donc moi, au cours de mon enquête, celle qui m'a particulièrement intriguée, c'est Vandana Shiva et l'ONG qu'elle a fondée en Inde, donc qui s'appelle Navdanya. Donc Vandana Shiva, bon, peut-être tout le monde la connaît, mais juste en deux mots, c'est une philosophe et militante écoféministe indienne, qui est très, très médiatisée en Occident. Mais en fait, j'ai découvert qu'en Inde, elle n'est pas tellement connue, et qui est vraiment considérée comme la figure de proue de l'écoféminisme, qui a écrit énormément de livres dessus, qui est dans plein de documentaires parlant de l'écoféminisme, et donc qui a fondé dans les années 80 cette ONG, Navdanya, qui, à l'origine, avait pour but de préserver des semences traditionnelles et de les rendre accessibles gratuitement aux paysans qui voudraient les utiliser. Donc le but était de lutter contre l'invasion des grands semenciers du type Monsanto qui ont donc complètement envahi le marché agricole, ce qui a créé chez les paysans, notamment en Inde, une dépendance économique énorme, puisque les semences hybrides, elles ont pour, ou OGM, elles ont pour particularité d'être stériles, de ne pas pouvoir se replanter d'année en année. Et donc, pour lutter contre cette dépendance économique et contre les dégradations de l'environnement qui étaient liées à ces nouvelles pratiques agro-industrielles, elle a fondé cette ONG avec pour but, simplement, au début, de conserver des semences et de permettre des échanges gratuits de semences entre les paysans. Et en fait, au cours des années, ça a pris de plus en plus d'ampleur au point de mêler plein de missions différentes. Et donc, voilà, moi, j'ai séjourné pendant 3 mois en Inde, donc 1 mois et demi dans son ONG et 1 mois et demi dans une autre ONG écoféministe qui s'appelle Jagori, pour essayer de voir, donc parce que j'avais énormément lu les livres de Vandana Shiva, les sites internet de ces ONG, etc., et plein de beaux discours, de trucs qui m'avaient fait complètement rêver. Et bon, sur place, évidemment, le rêve et la réalité, c'est pas la même chose. En fait, c'était mon expérience dans cette ONG, mais c'est pour avoir beaucoup discuté, ça semble être le cas de l'expérience dans toutes les ONG. Voilà, la réalité n'est pas du tout conforme aux idéaux, mais j'étais super naïve en fait de croire que la réalité pouvait être conforme aux idéaux. Mais voilà, ça m'a laissé perplexe sur plein de choses, mais surtout ça m'a fait prendre conscience de ce qu'a souligné Jay, c'est-à-dire la nécessité de vraiment prendre en compte chaque contexte local. Et que en arrivant, ça a été un exercice intellectuel et humain vraiment passionnant de voir que si on arrive dans un pays ou voilà, dans un endroit en ayant une idée préconçue de ce qu'est censé être le féminisme ou de ce qu'est censé être l'écologie. Par exemple, moi, j'avoue que j'avais été très convaincue et très séduite par le côté super radical du discours de Vandana Shiva, notamment dans sa démolition de la notion de développement et son explication que le développement, c'était du mal-développement. Et en fait, sur place, ça fait voir complètement différemment cette critique du développement. C'est-à-dire, ce qui peut être une sorte de concours de radicalité quand on est dans un pays riche, ce qui peut être une espèce de jeu voilà, entre gauchistes, de savoir qui va être le plus décroissant, qui va être le plus anti-développement en discours, dans le contexte de l'Inde du Nord, tout s'éclaire différemment. De la même façon, les notions, en fait, tous les mots prennent des sens différents. Les notions de femme, de nature, on ne peut plus du tout penser de la même façon. Enfin, en tout cas, voilà, sur la question de la décolonisation et de la façon dont le seul moyen de construire une lutte commune ou au moins des alliances, c'est qu'il y ait vraiment une décolonisation profonde de notre imaginaire politique et de notre manière de penser. Ça me paraît vraiment essentiel. Et je crois que ça peut pas se faire à travers des bouquins. Enfin, ça peut se faire que vraiment par la rencontre, l'expérience vécue, le dialogue réel et approfondi. Et ensuite, donc pour la strate du milieu, on va dire le noyau, c'est ce que j'ai appelé les écoféministes radicales. Et là, dans mon expérience, j'ai passé du temps chez une femme qui s'appelle Sylvie Barbe, qui vit dans les Cévennes en semi-autonomie, on va dire, parce que l'autonomie totale, individuellement, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, qui se définit comme écoféministe, c'est vraiment une vieille militante. Elle a été hippie dans plein de communautés, etc., depuis les années 70. Et maintenant, elle vit sur un terrain dans les Cévennes, dans la forêt, de façon radicalement décroissante. Et elle, en fait, elle m'a semblé vraiment exemplifier la manière la plus radicale et la plus à la fois cohérente et difficile possible d'incarner les idéaux écoféministes, puisque donc, elle, c'est une grande lectrice de Vandana Shiva, de Maria Miss, de Françoise Daubonne, de plein d'autrices écoféministes. Et elle a voulu vraiment ne pas juste trouver que c'était super sur le papier, mais essayer de vivre en conformité maximale avec ses idéaux. Donc ça fait que concrètement, elle vit donc sur ce terrain en semi-autonomie, dans des yourtes qu'elle a construites elle-même. Son but, c'est d'avoir un mode de vie qui ne soit pas prédateur de ressources d'une façon pas nécessaire pour sa subsistance. L'idée de perspective de subsistance qu'on trouve chez Vandana Shiva, chez Maria Miss, c'est vraiment la ligne directrice de sa vie. Comment vivre en réduisant ses besoins à la subsistance? Donc, elle vit d'une façon radicalement décroissante. Elle n'a pas l'eau courante, elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas de voiture ou de frigo ou de smartphone ou même de téléphone portable. Donc elle va chercher l'eau à la source où elle récupère l'eau de pluie. Elle essaye dans la mesure du possible de fabriquer les objets qu'elle utilise ou ses vêtements ou de fonctionner sur le mode de la récup, puisque un des principes qui l'anime, c'est l'idée de sororité, mais interprétée de façon très concrète. C'est-à-dire, pour elle, la sororité, ça veut dire si on est toutes sœurs, tu ne vas pas exploiter ta sœur. Tu ne vas pas faire fabriquer tes fringues par des sœurs qui sont des ouvrières du textile surexploitées dans des usines au Bangladesh. Donc, tes vêtements, tu te débrouilles pour les fabriquer ou, en tout cas, pour qu'ils soient fabriqués par une copine à toi qui sait mieux coudre que toi. Puis, en échange, toi, tu vas lui apprendre à faire ci ou ça. Donc, il y a vraiment cette notion de ne rien acheter qui, pour être produit, suppose la surexploitation du travail d'autres femmes. Ça implique aussi, par exemple, de ne pas refiler à d'autres femmes plus pauvres que soi le travail qu'on n'a pas envie de faire, du genre faire le ménage chez soi ou aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc, il y a vraiment l'idée que sororité, ça veut dire je n'exploite pas une nounou sans papier ou une femme de ménage précaire, etc. Et donc, elle, vraiment, dans son mode de vie, il y a cette recherche de tendre vers l'incarnation de ses idéaux, ce qui concrètement la contraint à une forme de marginalité. Parce qu'on s'aperçoit vraiment que si on veut aller jusqu'au bout de la démarche écoféministe, ça suppose d'être complètement en résistance avec le fonctionnement de notre système. À partir du moment où on le définit comme capitaliste patriarcal, l'écoféminisme le prend à contre-pied. Donc, ça suppose une marginalisation totale. Et alors, pour quand même transmettre, elle organise régulièrement des séjours sur son terrain entre femmes pour justement transmettre notamment les savoir-faire manuels qui permettent de se dégager du système industriel et transmettre aussi la forme de spiritualité de la terre qui permet de pouvoir couper certains liens technologiques, artificiels, parce qu'on a créé des nouveaux liens naturels et qu'on ne se retrouve pas suspendu dans le vide. Donc voilà pour les différentes formes d'incarnation de l'écoféminisme que j'ai pu rencontrer. Après, en ce qui me concerne, donc moi je ne me définis pas comme écoféministe, mais évidemment toutes ces recherches, enfin voilà, j'ai choisi ce sujet parce que ça me passionnait et que j'ai des affinités éthiques, politiques avec le mouvement. J'ai finalement pas fait le choix, bon, après avoir vécu pendant un moment un peu de cette façon-là, enfin, sauf que moi c'était plutôt éco-macho, parce que c'était avec un homme qui vit en autonomie, avec voilà, pareil, pas d'eau courante, les moutons et tout ça. Mais donc moi je faisais les sacs de petits bois pendant qu'il coupait les grosses bûches, etc. Bon, finalement j'ai choisi de pas rester dans ce mode de vie-là et de retourner dans la vie réelle, parce que finalement c'est quand même des sortes de bulles où il y a aussi un entre-soi qui me dérangeait. Donc voilà, après quelques années un peu hors de la société ordinaire, on va dire, j'ai choisi finalement de retourner enseigner au lycée public à Marseille, donc dans la réalité sociale avec toute sa diversité, ses contradictions, les gens avec qui on n'est pas d'accord, etc. Je trouve ça plus intéressant. Et voilà, même sans me définir comme écoféministe, en fait, je m'aperçois que chacune et chacun, à la place où on est, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, moi, ma manière d'enseigner, elle a profondément changé, à la fois dans ce que je transmets, les auteurs que je fais étudier, les théories que je fais étudier, mais aussi et surtout dans les pratiques. Par exemple, avant, en fait, je ne m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point notre système scolaire, il est ultra compétitif, il favorise que le travail intellectuel individuel. Et en fait, après toutes ces lectures, je me suis rendu compte que quand je notais les dissertations de mes élèves, ben en fait, je notais la catégorie socio-professionnelle des parents. Et que oui, ben, Philémon et Luce et Ninon, ils avaient 15, et que Jamila et Mehdi, ils avaient 8. Et que, en fait, dans cette notation qui se prétend égalitaire, républicaine, il y a un racisme institutionnel qui se transmet, il y a un classisme structurel aussi qui se transmet. Donc voilà, ça m'a amené à changer vraiment mes pratiques d'évaluation pour essayer de changer les choses dans la mesure qui m'est possible. Et je crois vraiment qu'à chaque situation où on est, s'il y a vraiment, ça suppose une grosse remise en question. Des fois, avoir l'impression de se dire « mais je fais n'importe quoi ». J'ai reçu des mails de parents d'élèves qui me disaient « à un moment, je ne voulais plus noter ». Des mails de parents d'élèves qui disaient « Madame, nous comprenons votre réflexion, mais la réalité étant ce qu'elle est, et Parcoursup, et blablabla. » Donc, ça suppose une forme de résistance mais qui, je crois, est de plus en plus... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui, de toute façon, n'ont plus le choix d'être dans cette résistance, tellement la marche que prend la réalité devient insupportable. Donc voilà, c'est une sorte d'optimisme pessimiste sur lequel je finirai.
Dans une seconde partie, nous avons transmis les questions du public à nos trois intervenantes. En voici une sélection. Nous leur avons d'abord demandé, sur un ton un peu provocateur, je l'admets, ce qu'elles pensaient des propos tenus par Elisabeth Badinter, qui postule qu'une partie des écologistes veulent l'asservissement des femmes, en ayant notamment recours à l'exemple des couches lavables et de la charge mentale qu'elles impliquent. Voici leur réponse.
Bah, en fait, la réaction d'Elisabeth Badinter, donc, dans un livre qui s'appelle « Le conflit », qui est un livre d'Elisabeth Badinter, il y a effectivement plusieurs passages où elle critique ce qu'elle appelle la « Sainte Alliance des réactionnaires », dans lesquels elle met effectivement les écolos, certaines femmes qu'elle considère comme des pseudo-féministes, pas vraiment féministes, mais en réalité conservatrices, etc. Et il y a ces exemples de des couches lavables, des petits pots maison qui seraient faits au nom de l'écologie. Donc, en fait, en disant ça, elle reproduit une incompréhension qui a souvent eu en France autour de l'écoféminisme. Et c'est assez caractéristique, en fait, de la façon dont l'écoféminisme a été reçu et continue souvent d'être reçu en France. En France, le féminisme, il s'est vraiment construit dans une lignée très antinaturaliste. Donc, le fameux « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, qui amène vraiment à déconstruire l'idée de nature féminine ou l'idée d'essence féminine et de considérer que la seule voie d'émancipation, c'est justement d'échapper à ce que Simone de Beauvoir appelle l'immanence, donc la sphère domestique, la répétition du même, de ce qu'on fait beaucoup quand on s'occupe d'enfants ou d'une maison. Et Elisabeth Badinter s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Alors, du point de vue de l'écoféminisme, c'est une incompréhension de ce que veut l'écoféminisme. Parce que les écoféministes, elles se rendent compte que, par exemple, il n'y a pas que les femmes et les machines à laver qui sont capables de laver des couches. Les hommes aussi peuvent le faire. Il n'y a pas que les femmes et les aspirateurs qui savent faire le ménage. Les hommes aussi peuvent le faire. Donc, l'idée en disant on essaye de faire les choses de façon plus écologique n'est évidemment pas, dans l'optique écoféministe, de rajouter du boulot aux seules femmes et de les enfermer dans une sphère domestique et des tâches répétitives dont elles ont galéré pour se délivrer. Donc, l'idée, c'est au contraire d'intégrer davantage les hommes dans les tâches ménagères, dans les tâches domestiques, dans le soin aux enfants, dans le soin de la vie quotidienne. Après, ce qu'on observe, c'est que, de fait, sociologiquement, il semble que dans les foyers où il y a ces pratiques qui sont mises en place, pareil pour le zéro déchet, etc., ce sont très majoritairement les femmes qui s'en occupent. Mais ce n'est pas ce à quoi aspire l'écoféminisme. Dans l'écoféminisme, il y a vraiment l'idée de répartition égale. Mais on observe qu'il y a une certaine résistance de la part des hommes à s'impliquer réellement dans l'éducation des enfants, dans toutes ces tâches que rajoute de fait le passage à une vie plus écologique, qui demande de faire des choses par soi-même, ce qui peut prendre plus de temps, mais ce qui peut aussi apporter des formes de gratification.
Ouais, je vais peut-être juste rajouter un petit truc aussi. C'est, en fait, je pensais justement au propos d'Elisabeth Badinter quand j'ai fait mon introduction justement sur l'écoféminisme tout à l'heure, en parlant du côté étiquette essentialiste qui a fait un peu que les écoféminismes ont eu mauvaise presse dans les années 90 en France, et uniquement en France, parce que, comme le disait Jeanne, ailleurs dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, il n'y a pas eu cette étiquette, on va dire, sur l'écoféminisme. C'est typiquement français, cette réaction. Ou en tout cas Nord-Europe, je dirais. Mais oui, en fait, les écoféministes veulent simplement, dans cette approche-là, dégenrer le côté de la nature qui a été attribué à la femme. Et la nature doit être aussi prise dans son acceptation et sa protection de la même manière par les hommes. Et c'est ça qui est porté par les écoféminismes. Ça n'est pas de, à nouveau, ranger le côté nature égale femme égale féminisme égale care. Et ça, c'est hyper important dans cette compréhension-là. Et en effet, Elisabeth Badinter s'inscrit dans la lignée de Simone de Beauvoir et a pas pris le temps, je pense. C'est une question de rencontre entre certains féminismes et certains écoféminismes, encore une fois, de se comprendre. Il faut juste tout simplement revenir sur la notion de sororité dont tu as parfaitement expliqué la puissance tout à l'heure. Et de comprendre qu'en effet, à aucun moment, il y a un mécanisme de domination qui doit se faire dans la notion écoféminisme. Et dans cette vue-là, dans cette optique-là, il est impensable que la partie protection de l'environnement, donc par les couches lavables ou par n'importe quel autre type d'action pour protéger l'environnement, soit sur les femmes, puisque le principe même, c'est de dégenrer le travail, c'est de déracialiser le travail, c'est d'apporter une vision vraiment post-colonialiste, c'est de revoir ce système dans lequel on s'inscrit. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas changé le système, on ne l'a pas modifié. Le système, il est patriarcal. Et dans ce système patriarcal, les métiers du care, malheureusement, sont encore majoritairement effectués par les femmes. Mais ce n'est pas ce que prône le mouvement écoféministe, pas du tout.
Nous les avons ensuite interrogées sur l'existence ou non d'une incarnation politique des luttes écoféministes. Et pourquoi les écoféminismes en France sont-ils invisibilisés et diffus au sein de luttes plus larges ?
Oui, alors les écoféminismes, c'est des luttes qui sont politiques. Hein. C'est avant tout, au début, dans l'histoire, j'y revenais sur le Women Patagon Act et puis sur toutes les luttes antinucléaires. Avec les récits poétiques politiques, donc c'est vraiment des luttes qui sont aussi politiques et qui s'inscrivent dans une rupture politique, une autre façon de penser la politique qui serait sociocratique, horizontale, qui serait respectueuse de l'une et de l'autre, avec toujours cette notion de ne pas exploiter l'autre, donc une autre façon de faire de la politique autrement. Donc ça, c'est sûr que les écoféminismes ont pris ça à bras le corps et sont rentrés typiquement dedans sans aucun problème, vu que ça fait partie intégrante du mouvement, j'ai envie de dire. Sur la partie pourquoi ça a été invisibilisé, alors on y a un peu répondu depuis, notamment avec cette étiquette un peu essentialiste qui a été collée sur les écoféministes. Et avec justement ce type de réactions comme Elisabeth Badinter qui ont contribué aussi un petit peu à se méprendre sur ce qu'étaient les écoféminismes et à contribuer à tomber un peu dans l'oubli, en tout cas en France, puisqu'on l'a vu dans les pays du Sud, les écoféminismes sont assez présents et mobilisés partout dans le monde. Donc je pense que vraiment c'est une question de non-rencontre, de mécompréhension, mais je suis sûre qu'avec une bonne dose de sororité, on va retrouver l'esprit collectif et on va pouvoir travailler toutes ensemble.
Et alors j'imagine qu'en fait dans la question, ce qui était entendu par... politique, c'était en particulier la politique partisane, c'est-à-dire la politique au sens des partis politiques ou des représentants politiques, députés, etc. Et alors, sur ce point spécifique, donc déjà, effectivement, comme il a été rappelé, en fait, la politique, ça ne se réduit pas à ça. Mais sur le point de la politique au sens parti politique, en fait, il y a une évolution très récente. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais depuis quelques mois, j'observe qu'il y a un certain nombre de partis politiques, alors évidemment des partis verts ou écolos, ou pas forcément, enfin au moins à gauche, voire bien, bien, bien à gauche, qui mènent une réflexion sur ces thèmes. Et par exemple, moi, j'ai eu la surprise de passer la fin de mon été à être invitée dans toutes les universités d'été de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, parce que les partis actuellement, enfin ces partis-là, pareil, le Parti Vert Suisse, en fait, il y a vraiment une réflexion qui est menée dans ces partis actuellement pour savoir s'ils deviennent des partis écoféministes, s'ils introduisent des mesures écoféministes dans les programmes, etc. Ceci dit, à chaque fois, à chaque fois, les personnes qui m'ont contacté, c'est par exemple la commission écoféminisme au sein d'un parti. À chaque fois, donc il y a vraiment un désir sincère et une vraie... un vrai questionnement aujourd'hui autour de ces enjeux-là. Les commissions écoféminisme de divers partis qui m'ont contacté, on voit qu'elles cherchent vraiment à écoféminiser, on va dire, le programme, mais aussi les pratiques en interne. Par exemple, Est-ce qu'on continue à faire des réunions à 20h alors qu'on sait que du coup, bah, les femmes, elles ne pourront pas venir parce qu'il faut qu'elles rentrent chez elles s'occuper de leurs enfants? Est-ce qu'on continue à ne pas faire de garde d'enfants aux universités d'été? Ce qui fait que de fait, ça va exclure les femmes qui ont des enfants en bas âge parce que concrètement, c'est elles qui vont, pas, qui vont s'occuper des enfants, etc. Donc, il y a vraiment ça qui est mené. Donc, d'un côté, on peut s'en réjouir. En même temps, il y a deux bémols. Déjà, il y a eu traditionnellement dans l'écoféminisme une méfiance vis-à-vis des partis avec le questionnement, est-ce que c'est vraiment possible de s'institutionnaliser et d'être dans la course au pouvoir, d'essayer de gagner des électeurs sans se trahir complètement. Deuxième bémol, à chaque fois qu'on m'a demandé d'intervenir, tous les membres du parti étaient au courant, enfin l'info avait bien circulé, etc. Et il n'y avait que des femmes qui étaient connectées. Donc il y a quand même là aussi des résistances et des difficultés quand il s'agit pas juste de dire « ouais, c'est super sur le papier », mais de faire.
C'est avec cette idée de résistance que nous conclurons cet épisode d'OGM dédié aux écoféminismes. Pour compléter les interventions de nos invités, vous trouverez en description de ce podcast les recommandations culturelles de chacune des intervenantes. Je vous encourage également à consulter les comptes Instagram de S'exprimons-nous et d'Écologique. Vous y trouverez une campagne explicative dédiée aux écoféminismes, une série de recommandations culturelles sur le sujet, ainsi que des publications sur la convergence des luttes. Je tiens à remercier encore une fois nos invités pour leurs magnifiques interventions. Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'OGM.
La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante.
C'est aux enfants d'éduquer les parents.
Une croissance exponentielle dans un infini ne peut pas durer éternellement.